Bienvenue sur le podcast Entreprendre autrement, présenté par Koboom. Notre objectif, vous inspirer et vous partager différentes façons d'entreprendre autrement. Chaque semaine, nous recevrons une ou un entrepreneur inspirant qui a osé entreprendre à sa façon. Asseyez-vous bien confortablement, on décolle dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Entreprendre autrement. Aujourd'hui, je reçois David Cartier, président de Emballage Cartier. David est une relève familiale qui a pris la relève de son père. Et dans son récit, il nous raconte comment la paresse lui a servi tout au long de son parcours pour devenir un président qui fait les choses autrement, un président qui est complètement sur son X, qui a du plaisir au travail. Bref, j'espère que cet épisode vous inspirera à entreprendre autrement. Bonne écoute! Bonjour David!
Bonjour Catherine Dubé!
Comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va très bien. Aujourd'hui, je voudrais te demander comment tu arrives selon un drink?
Je vais dire un B52 cheap de SQ.
Déjà mélangé
dans un plastique avec un petit couvert, ouais. Là, que ça tombe dans le fond, ça fait du ciment, là, mais t'es gazé quand même un peu après 2-3.
Ben merci de ce partage. Aujourd'hui, je voulais te rencontrer parce que, un, tu m'inspires beaucoup dans la façon que tu entreprends, dans le rôle que tu as su changer comme président, mais aussi dans le modèle d'affaires que tu as su mettre en place chez Emballage Cartier. Avant de se lancer dans le vide, qu'est-ce que fait Emballage Cartier?
Ben à la base, c'était... Mon père a parti ça en 1980. Distributeur très traditionnel, là, distributeur de matériel d'emballage, fourniture d'emballage, fourniture sanitaire, santé, sécurité. Puis nous, on l'a flippé. Je dis nous, là, c'est moi puis mon équipe, qui est pas mal toute là encore. Il y a 8 ans, on a flippé ça pour le positionner comme spécialiste en solution d'emballage, où on a vraiment comme mission d'aider nos clients dans un domaine qui ne sont pas nécessairement bons, c'est protéger leurs produits, qu'ils aiment beaucoup et que leurs clients aiment beaucoup, mais les protéger pour passer à travers les différents moyens de transport.
On dit spécialiste. Il y a plein de gens qui se disent spécialiste. Ça veut dire quoi dans le réel, être spécialiste?
Ouais, écoute, ça a été... C'est une bonne question parce que quand on a commencé à se positionner comme spécialiste, c'était peut-être plus comme une approche marketing pour essayer de sortir un peu du lot. En fait, on venait de faire une analyse de notre marché, puis on trouvait qu'on avait une offre plus à valeur ajoutée que nos compétiteurs. Donc on se dit, nous autres, on va être le spécialiste. Puis ça l'a donné qu'il y avait un show à Québec, puis que tout le monde avait un kiosque, puis toute notre compétition, puis même des gens de d'autres domaines. Puis on dirait que tout le monde avait fait affaire avec la même firme marketing, tout le monde était spécialiste. Fait que là, je me suis mis à nous appeler le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. On a dû faire une grande introspection par rapport à ça. Puis pour nous, de se positionner comme spécialiste, c'était vraiment d'amener à faire la différence, puis d'aller vers un client, puis d'être capable de le conseiller. Fait que là, c'était d'amener une approche conseil dans un milieu traditionnel avec des reps traditionnels, avec des acheteurs traditionnels. On a fait des changements extraordinaires. On s'est mis un laboratoire en place pour être capable, pas juste de se fier sur ce que nos manufacturiers de produits disaient sur de la pellicule, elle va performer de cette façon-là, mais de vraiment tester les emballages de nos clients à l'aide de notre laboratoire. Ce qui se passe au niveau des vibrations, des chocs, des mouvements, des changements de température. Fait que, tu sais, on est vraiment passé de, je dirais, un spécialiste soft à quelqu'un qui amène quelque chose de vraiment de valeur ajoutée concrète.
Donc, au lieu de vendre des prix, on s'est mis à vendre une solution.
À écouter nos clients, surtout. Ouais, à comprendre, puis une fois que tu as compris est où la problématique, ben là, tu peux t'engager sur le chemin de la solution.
Je comprends. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à joindre Emballage Cartier dans ton parcours?
Je savais pas quoi faire dans la vie, là. C'est aussi simple que ça. C'est une business familiale. C'est un business que j'ai vu mes parents bâtir de scratch. Moi, quand j'étais jeune, moi puis ma sœur, on se faisait à souper parce que nos parents étaient en business, puis ils étaient dans une autre ville. Puis des fois, on les appelait parce qu'on est en train de se chicaner. Je me disais, José, elle arrête pas, David, arrête pas. Là, on a des couteaux, là. Ah, mais lâchez les couteaux, tu sais. Fait que j'ai été élevé là-dedans. Mes jobs d'étudiant, c'était. Mon père disait, trouve-toi une job cet été ou sinon, t'es obligé de venir travailler chez nous. Fait que je me trouvais pas de job, fait que j'étais obligé d'aller travailler. C'était. Non, ça me tentait pas du tout, du tout, du tout. Fait que qu'est-ce qui m'a amené, c'est que moi, j'étais pas bon à l'école. J'étais pas mauvais quand je me suis quand même rendu à l'université, mais je disais, j'étais surtout pas travaillant. Là. Les devoirs, les leçons, ces affaires-là, ça me tentait pas. J'ai jamais fait de devoirs dans ma vie. J'ai trouvé des manières de passer le cégep sans même y aller. T'sais. Mais à l'université, ça passait plus. Là. Je me suis retrouvé en sociologie à l'université parce que j'avais pas de maths. Puis j'ai regardé autour de moi, puis tout le monde avait 3-4 diplômes. Je savais pas trop que ça faisait un sociologue non plus dans la vie. Fait que je voyais pas de perspective d'avenir. Alors, j'ai demandé à ma mère une job en attendant, puis là, je vais m'en aller dans la police. La police, la session commençait juste 3-4 mois plus tard, je sais pas. Fait que j'ai resté. Fait que je suis rentré en attendant, puis je suis encore là, hein, en attendant. J'attends de savoir ce que je vais faire dans la vie. Absolument pas. Absolument pas. C'était pas un rêve. C'était, moi, j'avais toujours dit jamais je vais travailler pour mon père. D'ailleurs, j'ai toujours dit jamais je vais travailler pour mon père, jamais je vais habiter à Saint-César, puis jamais je vais sortir avec une fille du bureau. Fait que je suis rendu propriétaire de la compagnie, j'ai travaillé là toute ma vie. J'ai habité à Saint-César, puis j'ai 3 enfants avec une des anciennes réceptionnistes. Quand je dis j'ai 3 enfants avec la réceptionniste, on dirait pas un peu vieille pour toi, j'ai même pas elle.
Super. Puis, il y a 8 ans, tu es devenu président.
Oui.
Tu as démarré un nouveau projet qui est le domaine Quartier Potel. Pourquoi, en même temps de prendre la présidence, as-tu décidé de partir dans un projet qui était un peu fou?
Ben écoute, je le dis tout le temps que c'est une crampe au cerveau, parce que pourquoi, je sais pas pourquoi, là, je l'explique, bon, il y a peut-être la remise en question de la quarantaine, le fameux « qu'est-ce que je vais faire dans la vie? » là, est-ce que ça me nourrit pleinement d'être chez Emballage Quartier? Mon beau-père avait eu une terre, puis je l'avais aidé. Moi, j'allais casser du blé d'Inde où je travaillais à l'érablière le matin avant d'aller travailler chez Quartier. J'allais travailler pour mon beau-père. Je trippais pas tant là-dessus, mais quand il a vendu sa terre, j'ai vu que ça me manquait. Fait que là, j'avais des amis qui se partaient, des affaires de cidre, des cidreries, puis ça avait l'air cool, tu sais. Blé d'Inde, pas tant, mais faire de la bouse, faire de l'alcool, ça avait l'air cool. Et j'ai mon beau-frère qui est directeur informatique chez Raymond Chabot, qui était disponible parce qu'il avait été remercié puis il avait un bon package de départ. Et lui, il se posait la question qu'est-ce qu'il allait faire parce qu'il voulait pas retourner en informatique. Puis c'était un épicurien, puis c'était un gars qui s'intéresse à ça. Et j'avais ma sœur aussi qui était 50-50 actionnaire chez Emballage Quartier avec moi, qui n'était pas très passionnée par l'emballage. Fait que quand je lui ai arrivé avec une idée folle de « Hey, on se part-tu une ciderie, un vignoble? » Ils ont trippé là-dessus, puis je pense 2 mois après, on achetait 32 hectares, 15 000 pommiers, puis on commandait de l'équipement pour faire de l'alcool.
Wow, comment ça s'est passé, ce démarrage-là?
Ah, c'est drôle, c'est tellement drôle. Ben, au début, toute la passion, toute la naïveté de ce nouveau projet-là, puis on est allé sur les bancs d'école pour apprendre à fabriquer de l'alcool. On a appris notre métier, puis on a commandé des équipements, puis c'était vraiment la passion, puis c'était le trip au bout, là. Puis là, ben, on commence, je me rappelle, on commence à presser des pommes, puis on est tout à côté, puis on se filme. On pense qu'il y a du jus qui va sortir. C'est une grosse presse là, hydraulique, puis là, ça fait bien du bruit, là, puis là, on est là, hey, il va sortir du jus, il n'y a pas de jus qui sort. Puis là, 1 heure, 2 heures de pressage, puis on n'a presque pas de jus, tu sais. Fait que, on est là, appelle un tel, appelle le gars qui a vendu l'équipement, puis là, on est trop orgueilleux, tu sais, on se sent vraiment con, là. Pour finalement appeler pour demander notre chemin, il manquait un équipement, tu sais. On n'avait pas le broyeur. Fait que pour presser de la pomme qui n'est pas gelée, il faut que tu aies un broyeur avant. Fait que là, on l'a appris. Fait que là, les premiers mois, c'est juste des affaires la même. Là. On avait même une ardoise où on écrivait nos niaiseries. Là. Toute la fois que j'ai rentré dans le mur avec un livre, toutes ces affaires-là, Jean-Pierre a échappé ses clés. Ça, j'ai pas le droit de le dire, mais Jean-Pierre a échappé ses clés dans la cuve de cidre tranquille la première année. Fait quand on gagnait des prix avec ce produit, on disait, c'est à cause du trousseau de clés, Jean-Pierre. Fait qu'il y a tout ce côté, le fun-là, qui part.
Ouais.
Puis qu'on n'a pas la pression d'être rentable parce que c'est le début du projet. Mm-hmm. Mais il y a aussi quand même 15 000 pommiers à s'occuper.
Oui.
Puis Jean-Pierre est ultra travaillant. Moi, pas tant. Puis là, on commence à s'étourdir. La vie de couple de José et Jean-Pierre est plus tough. En fait, il se voit pas. Lui, il travaille comme un méchant malade, puis il n'en voit pas le bout. Pénurie de main-d'œuvre, c'est il y a 8 ans, on n'en parlait pas tant dans le domaine industriel, mais dans l'agriculture, c'était très, très présent. Fait qu'il engageait du monde qui le volait ou qui ne venait pas travailler le lendemain. À un moment donné, on a pris la décision de sous-louer le verger.
Je comprends.
Pour plus s'occuper de ça, nous autres, on voulait faire de l'alcool. Fait que là, ça fait 8 ans. Là, on commence à vraiment avoir du fun, mais il y a eu un gros bout où on aurait pu tout s'en aller. Ben, c'est pas payant. Là.
Une vraie start-up, finalement.
Ouais, une vraie start-up d'un domaine où tout le monde dit vous êtes cave, vous êtes fou, ça sera jamais payant. Il y a un vieil adage qui dit que c'est les 200 premières années les plus dures. Fait que pourquoi ça? Ben, je sais pas. Je prenais la présidence de la compagnie, j'avais déjà des défis en masse. Mais j'ai toujours été animé par qu'est-ce que je vais faire, mais que je sois grand, puis je vais avoir 47 ans, puis je suis encore animé par ça.
Là. Justement, en parallèle de ce projet-là qui démarrait, ton rôle comme président a beaucoup évolué en 8 ans. Pourquoi avoir fait évoluer ce rôle-là pour, par exemple, en fait, tu t'es dégagé des opérations. Pourquoi tu as décidé de faire évoluer ton rôle de président de cette façon-là?
Bien... Moi, souvent les gens me posent la question, tu te la fais poser toi aussi la question, c'est une question magique, là, c'est qui tes modèles dans la vie, t'sais. Mais moi, j'ai autant de modèles négatifs que de positifs.
Oui.
Souvent, là, j'ai beaucoup appris à je regardais des gens qui étaient dans des postes de décision, de direction, puis j'ai regardé aller, puis j'étais comme, moi, si jamais je suis en poste, je ne ferais pas comme lui. Fait qu'il y avait beaucoup
des
de ça. Ouais. Puis c'est tant mieux. Puis probablement que je suis un anti-modèle pour bien du monde aussi. C'est ça qui est le fun dans la vie, là, si on me donne au suivant. Mais j'avais quand même un modèle extraordinaire qui était mon père. Mon père, c'était un bon vivant. C'était un gars, un vrai entrepreneur. Quand je dis un vrai entrepreneur, je suis trop pensé que moi, j'en étais pas un. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui met à la maison une hypothèque, puis qu'il met à la maison garantie, puis qui part de scratch, puis qui la remet en garantie pour pouvoir partir d'autres projets. Fait que mon père a parti plein de projets qui ont tous fonctionné, toute la gang. Puis le dernier, il a explosé un visage. Fait que son dernier projet de business, où il était all-in, il a tout perdu. Fait qu'il a fait une faillite personnelle, il a perdu 11 millions.
Wow.
Et ça, c'est au moment où je prends la présidence d'Emballage Cartier. C'est à peu près dans la même époque. Et ensuite de ça, embolie pulmonaire, puis éventuellement diagnostic d'Alzheimer. Et il est décédé l'année dernière. Fait que ça a été une longue agonie. Donc, un homme pétillant, social. J'en compte encore plein de monde qui disait « Hey, ton père était drôle, puis tout. » Puis là, tout d'un coup, là, sa fin de carrière et sa fin de vie, c'est aigri, dépressif, colérique, boudeux. Fait que là, j'ai eu ça comme modèle, tu sais. Fait que moi, je prends la présidence de Cartier à un moment... où ça s'appelait Emballage Jean Cartier, où on n'était pas spécialiste en solution d'emballage, où l'élan que mon père y avait donné s'estompait. On commençait à reculer. On perdait des ventes, on reculait des profits. On aurait pu vivre probablement 40 ans là-dessus. Là. C'est pas ça le problème, mais ça fanait. Alors j'ai décidé, moi, que j'allais pas faire les choses selon le modèle proposé. C'est-à-dire que je ne vais pas être le président stressé qui stresse tout le monde, puis qui décide de tout, puis qui fait tout.
Quel genre de président tu as envie de devenir?
Oui, mais à ce moment-là, c'est ça. Je l'avais vécu, moi. J'ai tout fait dans la compagnie. Hein, j'ai vraiment tout fait. Puis même si je n'étais pas travaillant, puis j'étais paresseux, puis j'adhérais pas au système, j'y ai adhéré. Je suis devenu la personne qui fait des heures, qui arrive de bonne heure le matin, qui finit tard le soir, qui dit à tout le monde quoi faire, le petit chef, le petit caporal. Mm-hmm. Mais en même temps, celui qui est bon, puis celui qui est promotion, puis celui qui est la référence. Fait que je l'avais vécu. Puis là, je deviens président un peu à cause de tout ça. Parce que je suis hot, puis je connais le marché, puis je connais tous les filons de l'entreprise. Mais je décide, moi, à ce moment-là, que non, je continuerai pas de même. Je vais laisser de la place aux autres. Parce que je vais, un, nourrir mon paresseux qui était écœuré d'être stressé, puis de rusher sa vie là-dessus. Puis deux, le monde, ils ont le goût de se réaliser, puis ils ont le goût de relever des défis, puis ce monde-là, c'est des directeurs, c'est un comité de direction, puis on a une dynamique où on échange, puis c'est tout le temps moi qui tranche. Fait que j'ai décidé qu'on allait leur donner du pouvoir, qu'on allait leur donner les défis qui sont censés rechercher.
Comment on donne du pouvoir à nos gens?
Bien, premièrement, on arrête de prendre des décisions. Fait qu'on... Puis on a des discussions ouvertes, on en parle. Là. À partir de maintenant, moi, je décide plus de rien. Là. T'es bonne, toi, t'es capable, vas-y. Fait que là, la personne arrive avec un problème dans ton bureau. Parce que c'est ça, la dynamique qu'on a créée, là. Il y a un boss qui reçoit les problèmes de ses employés, puis là, il dit « fais va à gauche, va à droite ». Fait que la personne arrive dans mon bureau, mettons, je rencontre les directeurs une fois par semaine, puis là, fait état de tous ces problèmes. Fait que plutôt, il dit « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Mm-hmm. » Tu sais, c'est super banal, là. J'ai rien inventé. Là. C'est tous des concepts. Exactement. Puis ça a été tough, parce qu'à partir du moment, la personne reçoit ça, puis là, ben, elle est challengée, parce qu'elle veut prendre la bonne décision, mais elle n'existe pas, la bonne décision.
L'essayer.
La mienne ou la tienne, ou c'est souvent, des fois, il y a 52 possibilités, 10 millions de possibilités, c'est pas juste A ou B. Fait que j'ai compris aussi que les gens avaient le droit à l'erreur, comme moi, j'en prenais des mauvais calls aussi. Ouais. Fait qu'il y a deux choses. Il y a la personne qu'il faut qu'il grandisse là-dedans, puis il y a moi qu'il faut qu'il laisse aller les choses. Et c'était pas suffisant de juste jouer à ce petit jeu-là, là, de dire toi décide.
C'était
pis,
quoi l'autre move après?
C'était de pas être là, c'est de sortir de là. Fait que j'ai commencé à arriver plus tard le matin.
OK.
Puis j'ai commencé à repartir plus tard le soir. Donc, à ne pas me sentir coupable de le faire, parce que je savais que c'était bon pour moi, puis que c'était bon pour l'organisation, puis je vous fais confiance. Puis de lui donner le pouvoir de m'éliminer de certains meetings.
OK. Puis comment on se sent quand on se fait éliminer d'un meeting?
Bien, premièrement, il y a deux choses. Il y a le meeting demain, je ne participerai pas, ou les gens me disent, on aimerait ça que tu ne sois pas là.
Oui, exact.
Fait que ça, c'est une chose. Puis il y a aussi le pouvoir de me sortir en plein meeting. Comme en planification stratégique l'année passée, qui était mercredi, jeudi, vendredi, je me suis rendu jusque jeudi midi. Tu sais, ils m'ont dit, David, après-midi, il fait beau, on te donne congé. Là, j'ai compris que j'étais trop présent dans les discussions. Parce que le but de me faire éliminer, c'est de plus être là pour que les gens puissent se challenger, puissent générer des idées, puissent prendre des décisions. Cette année, j'ai toffé jusqu'au vendredi, fait que d'amélioration, mais ils ont le droit de me sortir. La question, c'était comment on se sent. Moi, c'était un choix. Fait que je l'assumais, fait que je les en voulais pas. Puis là, c'était drôle au début, parce que les premières fois que je me suis fait évincer d'un meeting, là, c'était tout en douceur et très poli. Ben, Star, c'est bon, David, on t'en s'est vu. Fait que je les en voulais pas. Par contre, je m'en allais, je sortais de la salle, puis là, j'avais comme une perte de contrôle, là, tu sais. Puis à quoi je vais servir? Pis, on est-tu rendu là? Je sers à rien, tu sais. Fait que ça a créé une espèce de vide.
Le vide-là, parce que c'est un vide important, c'est un peu comme la retraite, ce vide-là.
Ouais, le vide, c'est bad au bout, là. Ça mène à la dépression.
T'es-tu passé par là?
Ben, est-ce qu'on a mis le mot dessus? Peut-être pas. J'ai passé un moment rough. Ce qui est le fun, c'est que ça arrivait au même moment où j'étais dans le parcours d'école d'entrepreneurship de Beauce, pendant que j'explosais ailleurs. Je rayonnais dans mes réseaux sociaux, dans mon tout mon, je me suis créé un réseautage extraordinaire. Fait que ça s'est comblé, je dirais, sur 2 ans, là, tout ce vide-là. Mais oui, effectivement, là, il y a un bout de bad, puis à quoi je sers, puis tu sais, un agenda vide où je me plais à dire, tu arrives le matin à 10 heures, tu repars à 2 heures. Faire quoi, là, le monde? Ils peuvent même penser que je m'en vais au domaine Quartier Potel, arracher des raisins. Pas vrai, je m'en vais chez nous écouter Netflix, là. Là, t'arrives chez vous avant tes enfants qui reviennent de l'école, puis ils te voient là, sur le divan en short, là, tu sais. Fait que oui, c'est pas un moment glorieux. Par contre, je suis pas à l'âge de la retraite, je suis pas malade, puis j'ai encore plein d'ambitions. Fait que ce vide-là, je l'ai comblé par d'autres choses.
Ce autre chose-là, justement, je pense que chez Emballage Cartier, vous avez la réalisation de soi, qui est très importante. Pour toi, la réalisation de soi, elle passe par quoi?
Ouais, ben c'est devenu une valeur hein, chez nous, la réalisation de soi. Puis ça, c'est une des choses importantes. Quand je dis, j'ai parlé de laisser de la place, on pourrait dire déléguer. Mais je trouve ça, déléguer, je trouve souvent ça, c'est comme unilatéral. Je te délègue. tu garages quelque chose. C'est pas de même, je le vois, moi. Je vais déléguer un pouvoir, une responsabilité à quelqu'un qui va grandir dans ce pouvoir-là. Parce, oui, il y a des choses plates, là, tu sais. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il vide la poubelle aussi. Puis, mais en gros, de la délégation, c'est pas un cadeau empoisonné, tu sais. Fait que, moi, j'ai besoin de me réaliser, moi aussi. Fait que c'est important pour moi que l'équipe avec qui je travaille se réalise. C'est une valeur, puis oui, on fait plein de choses pour que les gens se réalisent. Mais moi aussi, c'est important que je me réalise. Fait que j'ai appris à me connaître. Je vais avoir 47 ans. À l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'ai appris que que des choses que j'avais faites plus jeune qui m'intéressaient, ça m'intéresse encore. J'avais fait du théâtre au secondaire, j'avais fait de l'improvisation. Fait que là, je t'annonce que je me lance en théâtre, puis que je m'envoie... Non, c'est pas vrai. J'ai commencé à faire des conférences. On m'a demandé de faire des conférences. On m'a demandé de participer à toutes sortes de projets d'entrepreneurs, que ce soit avec le groupement des chefs d'entreprise, que ce soit avec l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je suis appelé à être public et j'aime ça. Ça me nourrit énormément. J'ai une grande qualité aussi que j'ai découvert plus dans le groupement des chefs d'entreprise, dans nos clubs. Je suis quelqu'un qui aime challenger les gens. J'ai un talent pour ça. Fait que les gens qui aiment ça se faire challenger, ben, me demandent. Fait que je suis sur des conseils consultatifs, sur des CA. Je coach, c'est un grand terme, là, mais en fait, je rentre dedans quelques personnes. Je challenge quelques personnes. Puis là, ça commence à meubler mon agenda, mais j'ai pas du travail.
Ça, ton agenda, il est plein maintenant?
Il est pas plein, mais il est rempli de choses le fun.
Puis est-ce qu'on
c'est pas des contraintes.
Travaille quand on non. a des choses le fun?
Pour moi, travailler, c'est souffrir. Fait que quand c'est ces choses-là... Oui, il faut souffrir, puis ça peut être valorisant de souffrir, mais... pas 75 heures par semaine. Là, comme là, c'est la période des vendanges qui commence au domaine de quartier Potel. On va être bien content, première journée, d'être dans l'allée de raisin. On est au huitième jour. Là. J'aurais plus le goût de voir un raisin le reste de ma vie. Là.
Je comprends. Puis, je sais que tu vas encore au bureau, comme tu dis, en 10 puis 2 heures, mais tu y vas pas juste pour être en meeting.
Non. Ben moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir les gens. Moi, au bureau, je m'arrange tout le temps. Ben, je suis là pas mal à tous les jours. Je m'arrange tout le temps pour être là sur l'heure du dîner. Moi, je suis dans le milieu de la gang. C'est là que je suis bien. Je trouve ça tellement dommage qu'il y ait des présidents de compagnie ou des directeurs qui ne mangent pas avec le gang. C'est une vie de famille. Il y a quelque chose qui s'installe. Puis, tu sais, on est juste 75. On peut se connaître. Puis, on peut passer des moments ensemble. On n'a pas besoin d'attendre le party de Noël. Puis,
exact.
Fait que ça, c'est important. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ma business, là, c'est comment le monde va. D'ailleurs, mes rencontres avec mon directeur général, à toutes les semaines, ça commence par comment ça va, toi. Puis ben, il me ramasse. Oh, ça va bien. Là. Non, comment ça va vraiment? Je m'intéresse vraiment. Puis, parle-moi des enfants, puis tout. Comment va notre gang? Là, des fois, il saute un sujet. Il dit, ouais, là, la banque, blablabla. Non, pas la banque, là, mais c'est avec la banque. Comment il va, Gérald? Là? Il s'était blessé, là, 3 semaines. Comment il va, tu sais? Puis souvent, je le sais, parce que j'ai mangé avec la personne. Fait que je vais m'assurer que lui aussi, il sache.
Tu sais, puis il y a encore ce pouls humain-là.
Mais dans l'entreprise, c'est ça. Mais ma contribution, c'est beaucoup m'assurer que le monde se réalise, mais aussi à travers tout le... Moi, je dis, je chaîne énormément dans la communauté d'entrepreneurs. Bien, ça fait chaîner l'entreprise. Fait que ça amène beaucoup, beaucoup de contrats. Là. Sans nécessairement que je sollicite quelqu'un pour de l'emballage. On rencontre quelqu'un, puis on dit, ah, t'es dans l'emballage, puis... Ouais, je peux aller te visiter, ouais. Puis,
il y a une grande création de valeur à ce que tu fais. Par la réalisation de soi, qu'est-ce que vous faites chez Emballage Quartier pour pousser vos gens à se réaliser?
Il y a eu un gros... Il y a eu un moment bien important où j'ai pris la parole. Ça, c'est des bouts que j'aime beaucoup, prendre la parole devant le groupe. Là. Mm-hmm. Puis... être très transparent par rapport à ce que je pense. Je suis un gars qui est assez visionnaire, qui est, comme je suis sorti des opérations, je vois clair. Mes antennes sont clean, puis je sens bien les choses. Et là, on venait de mettre 1 million sur la bâtisse. C'est super beau, les bureaux, ça, sont débiles. On a des bureaux qui lèvent. On est vraiment à l'écoute là, du bien-être de tout le monde. Il y a des œuvres d'art, c'est mûr, c'est nice. Et on a une belle ambiance. Puis on venait de mettre en place le comité de mise en forme Gym Tonic, où là, on fait tout l'exercice ensemble. On a un gym. Tu sais, il y a plein de belles choses, même. Et là, je m'adresse aux gens. On venait de finir une superbe année. On a eu le plus beau party de Noël de la compagnie. Puis je m'adresse aux gens, puis j'étais un peu mean. Je lui dis, hey, on a-tu des beaux bureaux? Puis là, tu sais, vraiment, à toute question que je pose, ouais, on a l'air d'une équipe de McDonald's qui fait des Big Mac. Là. Ouais, on a-tu des beaux bureaux? Ouais, tu sais, beau gym, on a-tu une belle gang? Ouais. Puis là, je dis, hey, la gang, je veux pas vous péter votre ballon, mais si vous venez pour ça, venez plus.
Wow.
C'est pas pour ça que vous devez venir. Si la job que tu fais t'inspire rien, si tu te poses la question, ah, je vais être un acheteur toute ma vie, ou. Si ça t'écœure, ce qui se passe entre toi et ta job, puis que tu viens juste parce que tu disais, hey, c'est un bon employeur, c'est une belle place, ben, pose-toi des questions. Et là, nous, on marchait encore sur un système d'évaluation de rendement. Puis là, ça fait peut-être 4 ans de ça.
Okay.
des belles évaluations de rendement là, avec des babounes, puis des souris, puis une pondération, puis... Tu sais, genre d'affaires qu'on faisait pour clairer quelqu'un. Là.
Oui, t'sais, complètement.
C'est juste pour ça. Ça servait juste à ça. On montre des dossiers à tout le monde.
Personne n'a du fun à faire ça. Ça.
Tout le monde stresse. Fait qu'on était encore là-dessus, mais on appelait ça appréciation de rendement. C'était plus soft un peu, mais c'était encore... j'étais un peu dans une case. Et là, j'ai dit, devant tous les employés, j'ai dit, « Cher directeur, cette année, vous allez la trouver dure. » Parce que je vous demande à tout le monde de rentrer dans vos directeurs cette année avec « Est-ce que je me réalise et est-ce que l'entreprise me permet de me réaliser? »
Wow!
Et là, je veux quelqu'un qui a un rêve. Puis là, je parlais du domaine Quartier Potel en même temps. Je disais, nous autres, on s'est parti à un domaine, là, c'est une idée folle. Mais j'ai dit, si vous en avez des idées folles, partagez-les à vos directeurs. Fait que là, il y a du monde, là. Il y a du monde encore aujourd'hui qui disent, David, quand t'as parlé de ça, ça a changé ma vie, puis j'ai changé de job, puis tout. Ça a amené du monde, département des achats, une fille qui voulait être adjointe administrative, quelqu'un qui voulait être aux ventes, quelqu'un du service technique qui voulait être aux achats, quelqu'un qui voulait plus travailler chez nous. Il y en a trois qui sont partis. Mais là, partis avec, en nous disant, hey, moi, je veux faire quelque chose de génial dans la vie, puis on les a aidés. On a fait passer des tests psychométriques à du monde qui s'en allait. Qui sont vraiment des ambassadeurs à vie, à mon avis. C'est mes amis Facebook. on les a aidés. Il y a même un gars, je l'ai aidé. Il se trouvait un autre job. J'ai lu son nouveau contrat de travail. Je l'ai coaché là-dedans. C'est devenu une valeur. Puis, au budget cette année, ça, c'est mon directeur général qui a amené, puis la directrice des finances qui a amené cette initiative-là. Budget de formation pour tout le monde. Puis, si tu ne le prends pas... pour quelque chose relatif à la job, tu veux prendre une formation pour cours de danse ou ukulélé, on va le payer. Il y a un budget
cool.
Pour ça.
Ouais. Comment les employés reçoivent ça?
Ben, ce qui est drôle, ben, il y a eu un gros choc par rapport à là, 4 ans quand j'ai fait ce discours-là, mm-hmm. Puis toutes les actions, parce qu'on était conséquents, là, c'est revenu, on a refrappé là-dessus, toutes les évaluations ont disparu, c'est rendu vraiment une question, une grosse question, comment on peut t'aider à te réaliser, tout. Fait que là, on se rend compte que t'as ceux qui avaient des désirs dormants, là, puis là, ça explose, puis qui deviennent pétillants, puis qui ouvrent, puis ils challengent beaucoup, puis t'as ceux qu'on dirait que ça écœure. Hey, moi, j'avais décidé de faire ça toute ma vie. Là. Pourquoi il est fatiguant, lui, avec la réalisation soi? Puis c'est peut-être un peu générationnel aussi. Oui. Puis là, je vais faire mon champion. Je vais vous sortir des termes extraordinaires. Pyramide de Maslow. Sur tout le monde l'a entendu mille fois. Mais moi, j'y crois énormément à la pyramide de Maslow. Et il y a du monde dans les années 60 qui embarquait sur le marché du travail qui était dans le bas de la pyramide.
Oui.
Plus grand monde qui sont dans le bas de la pyramide au Québec. Puis c'est ça qui arrive, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, ils sont pas insécures de se loger et de se nourrir.
Non, pas avec la pénurie d'emploi.
Ben non, puis ils veulent se réaliser, ils veulent être des vedettes, ils veulent, tu sais, c'est bien plus haut dans la pyramide, appartenir à un groupe, le sentiment d'appartenance, se réaliser, s'accomplir.
L'estime de soi.
Tu sais, juste Instagram, toutes ces affaires-là. Là, c'est, fait que là, je vois comme... deux styles de réaction. C'est ça ta question, c'est quoi la réaction? Il y a ceux qui ont le goût de mordre là-dedans, puis ça t'attire de la main-d'œuvre aussi avec des concepts comme ça. Puis t'as ceux qui font comme, peut-être si je peux pas passer dans le radar.
Je pose pas cette question. Non, c'est ça. Je voulais pas la poser.
Exactement.
J'aimerais voir avec toi, t'es un homme très transparent. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent t'es trop transparent?
Ouais, ben c'est ça, je me le fais dire, je me l'ai toujours fait dire. Ben, probablement, plus quand j'étais jeune, c'était t'es trop baveux. Là, on appelle ça de la transparence. Monsieur le Président, vous êtes transparent. Non, j'aime ça donner de l'information. Puis justement, quand je dîne avec les gens ont accès à des choses des fois que ça aurait dû venir des paliers de hiérarchiques, puis c'est pas venu. Ils apprennent des choses en primeur des fois, ou tu sais, de monnaie, on met en place des horaires flexibles pour l'été, puis un département qui est pas au courant.
Wow!
<T'sais>, okay. Fait que moi, j'ai une grande gueule, puis je suis assez transparent. Je dirais, ceux qui pensent que je suis trop transparent, je dirais que c'est les paliers hiérarchiques. Donner de l'information, c'est donner du pouvoir. Donner accès à de l'information, c'est donner du pouvoir. Puis je pense que pendant des années, des siècles et des siècles, les gens qui étaient dans le bas de la pyramide de Maslow, le petit peuple, se sont fait envoyer à la guerre sur des prémices de mauvaise information, de ne pas avoir accès. Puis à cette heure, le monde sont éduqués, le monde a accès à l'information. Ils disent, hey, non, j'irai pas, t'as la fête, t'as foutu guerre ou whatever.
Mm-hmm.
Fait que je pense que il y a encore un modèle très, très hiérarchique qui existe au Québec, puis qui existe encore dans ma compagnie, qui est un modèle hiérarchique traditionnel, là, d'organigramme traditionnel, qui fait que les gens qui sont à un certain palier, qui ont travaillé fort pour atteindre ça, ils laissent pas nécessairement passer toute l'information. Là. Fait que c'est eux, généralement, qui s'inquiètent de ma transparence.
J'aimerais te poser deux dernières questions en concluant. Entreprendre autrement, c'est quoi pour toi?
Entreprendre autrement, c'est s'assumer, c'est se connaître, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est... Oui, il faut comprendre le marché, il faut suivre le flow, il faut voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, il faut regarder, il faut s'inspirer, mais il ne faut pas faire comme l'autre. Il faut qu'on soit bien dans ce qu'on est en train de faire. Là. Pour moi, c'est primordial, puis c'est ça que j'ai découvert dans les 8 dernières années. Là. Plus je m'assume, puis je vais faire des erreurs, là. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, là. Mais plus je m'assume, plus je suis en cohérence, puis les gens qui sont intéressés par cette direction-là qu'on prend, ils embarquent dans le train. T'sais.
Puis finalement, trois personnes qui t'inspirent à entreprendre autrement.
Je peux-tu en nommer quatre?
Tu peux en nommer quatre.
OK. Je vais commencer par les sœurs Rainville.
Oui.
Julie et Emmanuelle Rainville, qui sont les filles de Armand Rainville, de la compagnie Fraco.
Oui.
Ça fait longtemps que ces gens-là entreprennent autrement. Ça a commencé du père. Les filles sont encore plus éclatées. Toute la prémisse de leur business repose, peu importe c'est quoi qu'ils font, là, repose sur les relations humaines. Les autres, ils tombent en amour avec les gens partout dans le monde. Puis là, ils sont rendus qu'ils font de business en Espagne, à New York, un peu partout. Ils sont dans le domaine de la construction, c'est des filles. C'est comme si tout le modèle vraiment capitaliste traditionnel il était revu et corrigé par des valeurs qui vont être reconnues mondialement dans les prochaines années.
Ouais,
ils sont vraiment en ligne avec ce qui s'en vient. Deuxièmement, je dirais, j'ai rencontré un gars dernièrement, Stéphane Morin. La compagnie, je l'ai pris en note ici, c'est Synergic, groupe Synergic. Ce gars-là, premièrement, c'est un pilote d'avion, c'est un pilote d'hélicoptère. Je pense qu'il y a deux enfants, puis une blonde. Tout le monde est pilote d'avion, pilote d'hélicoptère dans cette famille-là. C'est un gars qui a étudié au Nouveau-Brunswick. Il est anglophone, mais il parle français comme toi puis moi. C'est un virtuose du piano. C'est un Elton John. Là. C'est un gars qui apprend toutes les tunes à l'oreille. Puis quand il joue du piano, on dirait qu'il a 22 mains. Il rock the place, solide. Et ce gars-là achète des business. Il achète les business en faillite. Des business qui considèrent qu'il y a du potentiel, ils ramènent les opérateurs dans l'entreprise et ils s'occupent de l'admin. Fait qu'ils dégagent les business de ce qui est lourd, qui est les lourdeurs administratives, c'est sûr. Puis lui, il est bon là-dedans. Puis ben, le dernier, ben, c'est vraiment un grand coup de cœur que j'ai rencontré justement dans mon parcours de l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui était mon entraîneur, qui s'appelle Jean Laflamme, qui est président de Industrie de la Rive-Sud. Ils sont un fabricant de meubles qui était vraiment dans un marché traditionnel où leurs meubles étaient vendus dans des magasins grande surface, style Walmart. Puis la Chine les a rentrés dedans. C'est du meuble assemblé. Là. Ils ont viré carrément, ils ont tout viré l'entreprise. Ils ont viré la mission, ils ont viré la vision, ils ont viré l'emballage. Tout part de la prémisse qu'au lieu de vendre aux marchands, aux distributeurs, ils vendent directement aux clients via le web. Fait que là, ils sont rendus avec un service à clientèle en espagnol, en français, en anglais. Il y a un persona c'est qui leur client. Le persona est génial. Et ils ont sauvé le business. Ils ont carrément sauvé le business. C'était une nécessité pour eux de changer. Mais ils n'ont pas juste changé ça. Ils ont changé le mood d'en place. C'est des super... Une vieille bâtisse de 200 ans, 150 ans, je ne sais pas combien. Le monde écrit ses murs. C'est beau. C'est agréable de travailler là-bas. Fait que, quand ils embauchent, le monde veut aller travailler là parce qu'ils en ont entendu parler. T'sais.
Je te remercie, David.
Ça me fait plaisir.
Puis au plaisir de se revoir vu qu'on se recroise tout le temps.
Ouais, c'est clair qu'on va se voir.